Bonjour et bienvenue. C'est donc la dernière journée du marché de la poésie. On aurait pu se poser la question à quoi bon un marché de la poésie, à quoi bon la poésie, à quoi bon les éditeurs. Nous, on a préféré se poser la question à quoi bon les revues. Donc je laisse la parole à André Chabin pour nous l'expliquer.
Merci Vincent, que je remercie doublement de cette introduction qui n'était pas abondante, donc qui va nous laisser encore plus de temps que ce qu'on avait, prévu. Donc effectivement, je remercie les organisateurs du marché de la poésie, Vincent Gimenaud et Yves Boudier, pour leur accueil, pour offrir cette fenêtre aux revues qui en ont tellement peu. Donc j'espère que les revues vont nous faire souffler un air frais, voire froid ou glacial, pendant cette séance. Je vous présente, avant de leur donner la parole, les quatre invités. Nous aurions pu rebattre les cartes et prendre d'autres revues, parce que finalement, sur ce marché de la poésie, il y a énormément de revues qui sont liées ou non à des maisons d'édition, au demeurant. Excusez-moi si je zote un petit peu, c'est pour faire genre, hein, tout simplement. Donc, quatre personnes autour de moi, on a failli frôler de la correctionnelle, puisque une des participantes nous manque, on a failli que se retrouver entre mecs, ce qui aurait été tout à fait injuste vu le panorama des revues aujourd'hui, mais heureusement, Daniel Fournier, qui représente la revue Les Écrits, une revue faite au Québec, nous a rejoints et je l'en remercie. À ses côtés et à ma gauche, et je crois qu'il est particulièrement bien placé, Frédéric Fioloff, qui représentera la moitié du Fourbi, la plus récente des revues autour de cette table. Et à mon extrême droite, tant pis pour toi, André, André Huguetto, qui nous parlera, qui évoquera son expérience longue de revuiste, et tout particulièrement la revue Phoenix, qui est faite à Marseille, et je crois que ça a du sens qu'elle soit faite à Marseille, on y reviendra, et à mon centre droit, Éric Pesty, qui représente la revue Koshkonong. Alors oui, cette question, à quoi bon des revues, pour nous, elle apparaît quasiment comme une question rhétorique, hein, puisque pourquoi des revues? Parce qu'on aime ça, parce qu'on en fait. Et en même temps, ce n'est pas une question forcément dénuée de sens. Parce que quand on voit la qualité, la diversité, l'abondance, le professionnalisme de toutes les maisons d'édition représentées ici, on se dit, mais pourquoi des revues en plus? Est-ce que ce n'est pas un superflu dont on pourrait tout à fait se passer? Et puis aussi, quand on fait une revue, il y a une chose qu'on sait très bien, c'est qu'on semble parler dans le désert. Personne ne nous attend, personne ne nous convie à la table majeure des éditions. Donc pourquoi faire cet objet que personne ne semble désirer? D'ailleurs, ni les libraires ne désirent les revues, les bibliothécaires n'en parlons pas. Donc c'est comme si c'était des objets excédentaires qui décidément ne rencontrait personne pour les choyer comme nous les choyons, nous, à Entrevue. Je précise qui je suis. Je suis le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle la Revue des Revues, qui est une sorte de tombeau majuscule faite aux revues d'hier et d'aujourd'hui. Donc voilà encore une autre raison qui interroge sur pourquoi fabriquer des revues alors que décidément aucun projecteur n'est tourné vers elle. Et puis enfin, c'est une phrase qui m'a souvent choqué de la part de financeurs de revues, c'est de se dire, mais pourquoi donc y a-t-il tant de revues, alors que quelques revues pourraient représenter les diverses sensibilités poétiques qui se manifestent aujourd'hui, donc on va les éliminer. Hein, on va faire une sorte de numerus clausus des revues et conserver celles qui valent le coup. On ne sait pas ce que c'est pour une revue de valoir le coup. Donc en fait, cette question n'est peut-être pas si rhétorique qu'elle en a l'air. C'est que cette question, on ne demande jamais à un poète pourquoi il publie des recueils que personne ne va lire. Et je vois quelques poètes dans la salle qui savent de quoi je veux parler. Je ne te vise pas. Je ne te vise pas, Étienne. Pourquoi est-ce qu'on demande à un chercheur pourquoi il veut absolument publier sa thèse dont il va être obligé d'acheter des exemplaires parce que sinon son éditeur ne la publiera pas. On ne leur demande pas. Mais une revue, il semble qu'elle doive toujours justifier son existence. Alors que nous, qui savons pourquoi nous faisons des revues, nous savons à quel point elles comptent, elles sont une partie de notre corps, de notre chair. Donc voilà cette petite introduction qui montre que cette question qui paraît à la fois un peu artificielle ou rhétorique est quand même ancrée de manière mauvaise dans un certain nombre d'esprits. Alors commençons le vif du débat. Alors je ne sais pas si ça va être vraiment un débat parce que je crois qu'on partage quand même beaucoup de choses en commun. Et si tu veux bien, André, je vais partir de toi. Oui. Parce que, quand même, tu es à la fois poète, oui, traducteur, oui, dramaturge, oui, réalisateur.
Un peu.
Et tu n'as cessé de multiplier, d'ajouter à toutes ces activités qui sont requérantes, la création ou l'accompagnement de revues. Puisque la revue Phoenix, qui a été créée, je crois, en 2011, a une mémoire très, très longue, une mémoire, exact, qui s'inscrit, oui, oui, là-bas, au bord, oui, de la Méditerranée, depuis Fortunio de Pagnol, les Cahiers du Sud, bien entendu, Sud, oui, puis, oui, autre Sud. Oui. Donc, c'est une longue histoire, oui, un long fil rouge, dont je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu l'as aussi bien, aussi longtemps tissé et tricoté.
Bien. Tout d'abord, je voudrais dire que tu as mis le doigt sur un aspect sacrificiel, je dirais, de ceux qui fabriquent des revues. Hein. Oui, parce que la récompense du public n'est pas vraiment là. Mais il y a celle des rencontres qui est très importante. Et de toute façon, effectivement, moi, je suis venu vers la revue Sud. Enfin, les Cahiers du Sud étaient passés, grâce à certains transfuges, je dirais, des Cahiers du Sud. On était passé des Cahiers du Sud à Sud, après l'abandon, bien sûr, de la revue Cahiers du Sud, mais la reprise par Jean Malrieu, d'un titre qui héritait donc de celle qui précédait, qui était donc la Revue Sud. Alors, cette Revue Sud devient ensuite la Revue Autre Sud. Puis, lorsqu'il s'est agi de ressurgir, après une énième chute, je dirais, une énième disparition, nous avons choisi le phénix comme symbole, bien sûr. Mais enfin, pourquoi suis-je dans les revues depuis un certain temps, depuis 1980 exactement? Eh bien, parce que la revue est un lieu, d'abord, un lieu de rencontre, de confrontation aussi, quelquefois, bien sûr, de discussion. Et au fond, il y a un grand égoïsme chez ceux qui fabriquent des revues, parce qu'ils escomptent un certain plaisir à tout ce que je viens de dire, à savoir rencontrer, se faire des amis, pourquoi pas.
Je m'aperçois aussi que c'est des ennemis aussi, peut-être.
Oui, et des ennemis, certainement, mais les ennemis sont en proportion, je dirais, de la réussite des amis. Voilà. Donc, mais c'est très intéressant pour, je dirais, faire vivre des voix nouvelles, des voix qui apparaissent et qui parfois disparaissent. Je crois que nous sauvons, non pas des espèces, la diversité des espèces, mais la diversité des voix.
Merci. Eh bien, Daniel Fournier, la mémoire de la revue, les écrits, est tout aussi... Je crois que ça marche.
Allô? Oui, oui. Bon.
Je crois que la revue Les Écrits a une mémoire extrêmement longue, oui, aussi, puisqu'elle existe depuis 1954.
Oui, c'est ça. C'est la plus ancienne, revue publiée au Québec, d'une part. Mais quand j'en ai parlé avec avec André, je répondrai à la question qui est, à mon avis, absolument pas rhétorique, mais je poserai la question autrement, à mon sens du moins. Comment faire sans les revues? Je pense que la question est vraiment comment faire sans les revues. Si on pense à la revue Les Écrits, que, bon, je vous montre quelques exemplaires, qui a évidemment énormément changé, qui s'appelait Les Écrits du Canada français, ensuite c'est devenu Les Écrits de l'Académie, puis finalement de l'Académie des Lettres du Québec, pour finalement s'appeler uniquement Les Écrits. Donc, au fil de ces 50 années, 60 années, donc, le format a changé. Autant les premiers écrivains québécois connus à l'extérieur du Québec, je pense à Anne Hébert, que vous devez connaître certainement, ou Marcel Dubé, ont publié leur premier texte dans la revue Les Écrits. C'est une revue qui est une plateforme pour moi, la revue. C'est une plateforme qui permet autant à des écrivains aguerris qu'à des jeunes écrivains, et je reprends le mot d'André qui me semble très juste, qui est le lieu d'une rencontre et de rencontres au pluriel. Ce sont les lieux des rencontres.
Moi, ce qui m'intéresse aussi dans Les Écrits, c'est précisément qu'elle vient d'un continent, d'un pays qui est aussi une langue assiégée, une langue minoritaire.
Oui.
Et est-ce que c'est d'autant plus important de faire une revue, de faire vivre une revue? Est-ce que ça compte? Est-ce qu'on y sauve quelque chose de plus que des jeunes voix, etc., cette langue à préserver, à faire valoir, à illustrer?
Je dirais peut-être autrement, l'écriture sauve la langue. Hein? Je pense qu'on ne peut pas imaginer un pays sans langue. On ne peut pas imaginer une littérature sans langue. Et chaque écrivain dans une revue, et c'est là où je pense que c'est une notion importante des revues, chaque écrivain a sa propre langue maternelle. Au Québec, on a plusieurs langues maternelles. On est d'abord bilingue. On parle québécois et on parle français. On a cet avantage d'avoir ces deux langues, le québécois et le français. Alors, je zozote pas, je parle en québécois. Vous voyez bien que malgré les similitudes, il y a des choses quand même au niveau du lexique qui sont différentes. Donc, la revue Les Écrits ne se gêne pas pour publier des textes dans le lexique québécois et aussi dans le lexique français, mettons, normatif. Bon. Mais c'est sûr qu'au Québec, la situation est toujours délicate parce que, comme vous l'avez justement dit, nous nous battons tous les jours pour la langue. Et on ne se bat pas contre une langue, ce qui est très différent. On ne se bat pas contre une langue, on se bat pour une langue qui est la nôtre.
Mais en parlant de langue, je me tourne vers Éric Pesty pour sa revue Coche-Colombe. Tu vas nous dire un mot, puisque beaucoup de gens sont encore troublés par un tel titre qu'ils ne savent pas écrire. Pourtant, moi, je l'écris souvent et je suis toujours obligé de réviser. Qu'est-ce que c'est? Et en parlant de langue, puisque la traduction, est essentielle, la manière dont cette revue est venue à toi, la manière dont tu l'accompagnes. Vas-y, présente-nous un petit peu. C'est né en 2011, je crois, toi, ou 2012.
Fin 2012. Juste pour donner mon point de vue aussi sur cette question, moi, il me semble, qu'on a évoqué précédemment, il me semble que la revue est aussi une table de travail. C'est un endroit, une table, autour duquel plusieurs auteurs ou lecteurs se retrouve, et le problème c'est peut-être de rendre public ce travail qui peut-être par vocation est plutôt confidentiel. Voilà, donc c'est peut-être le problème de la revue en librairie ou en bibliothèque ou choses comme ça, peut aussi venir de là, de ce fait qu'une revue est une table de travail, ou un laboratoire. On donne à lire des essais, des ratés, des toutes sortes de choses, et la légitimité du coup de la revue est lié à ces essais. Donc c'est pourquoi il peut y avoir un petit tremblement à la réception, parce qu'on n'est pas forcément, tout le monde ne s'intéresse pas à du travail sur le vif. Voilà. Et c'est pas des résultats achevés qu'on présente, mais souvent des résultats en cours. Autre chose pour ce qui concerne la poésie, Le chemin pour un auteur, il me semble, pour arriver jusqu'au livre chez un éditeur est long. Et les revues sont des étapes vraiment indispensables. Je pense, si on pense à des auteurs comme Laura Vasquez ou qui sont de jeunes auteurs qui ont conquis leur lectorat, il lui a fallu publier quand même de nombreuses fois en revue, et qui sont autant d'expérimentations de sa voix, de son écriture, et puis qui permet après d'aboutir à des publications très en vue là actuellement, puisqu'elle a un livre aux éditions du Sous-Sol qui est remarqué cette rentrée. Pour revenir à Koshkonong, alors Koshkonong, c'est un mot indien d'Amérique du Nord, c'est un lac. Donc le mot Koshkonong en indien, Winnebago, je ne sais pas comment on dit Winnebago, ça signifie le lac qui est la vie, traduit Jean Dev, mais qui surtout donne la nourriture. Donc il y a le poisson, il y a tout. Donc c'est le mot Koshkonong donc est le mot de ce qu'on pourrait paraphraser comme ça. C'est un lac auprès duquel vivait Laurine Niedecker, la poète américaine et objectiviste majeure, donc qui a écrit dans les années 50, un peu avant, un peu après, et auquel Jean Dev, qui est le directeur de la revue, a souhaité rendre hommage. Donc il y a des traductions de Laurine Niedecker dans le premier numéro. On a Martin Richet est un traducteur de Laurine Niedecker parmi d'autres et a traduit quelques pages de sa correspondance. Le livre paraîtra chez Corti en 2022, des lettres choisies, voilà. Et donc c'est un auteur qui nous importe, à Jean comme à moi, je crois. Et qui a donné, enfin dont l'influence se marque par le nom du lac auprès duquel elle vivait, qu'on a repris comme titre de la revue.
Quatrième revue qui est un peu atypique ici dans la mesure où la poésie, même si elle y est présente, est tout de même minoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais savoir pourquoi sa date de naissance officielle, c'est 2015, mais comment est née l'idée de cette revue pour toi? Pourquoi tu as fait une revue et pourquoi tu dis, en quatrième de couverture, qui est très beau, je t'ai déjà posé la question, écoute-nous, on est des vieux complices. La moitié du fourbi explore librement où je vous passe, réaffirmant que la littérature est l'exercice jubilatoire le plus sérieux du monde. Donc, de quoi est faite cette revue? Pourquoi t'en as l'idée? Et qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase qui est aussi belle que mystérieuse, bien que nous la partageons tout à fait?
Il y avait l'idée dans la moitié du fourbi d'essayer d'explorer un espace qui justement, sans prétention mais avec une envie réelle, bouscule peut-être certaines catégories un peu plus figées qu'on retrouve dans le monde éditorial où pas seulement d'ailleurs, mais où on va effectivement devoir se placer du côté de l'essai ou de la poésie ou de la nouvelle, avec un peu cette intention de pouvoir prendre tout ça de front et soit dans des mêmes textes, soit dans une composition générale du numéro, de pouvoir justement créer de la porosité entre ces catégories-là. C'était un petit peu ce qui nous animait, l'espace qu'on s'est un peu choisi et qu'on a voulu explorer. C'est parti d'un peu de ça. Avec cette idée, il y a aussi dans notre déclaration d'intention qui est un peu la quatrième de couverture qu'on retrouve tout le temps, l'idée d'une promenade à livre ouvert et à livre fermé. Pourquoi ? Bah parce que bien sûr c'est une revue où souvent à partir des thèmes, des mots qu'on prend comme titre d'un numéro, on explore ça de différentes manières, à travers la littérature, la manière dont ça peut résonner avec nos titres thèmes, mais aussi avec un regard d'ouverture, ce à quoi nous invite de manière générale la littérature, sur le monde, sur des choses qui ne relèvent pas de manière intrinsèque forcément de la littérature, revenir sur certains événements historiques, sur certains témoignages, certaines choses vécues qui peuvent elles aussi entrer dans le moule de la littérature. C'était un petit peu cette idée-là, et explorer ça. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, et je pense que c'est important. J'ai lu il y a pas longtemps, on avait un petit peu de temps sur le stand des revues, je feuilletais un bouquin d'entrevue de Mathieu Bénézet qui s'appelle Le roman des revues, dans lequel à un moment donné je trouvais cette jolie phrase où il dit, alors ça peut sembler un peu péremptoire et prétentieux, qui sait, mais c'est tout à fait juste que dans chaque nouvelle revue, il y a une décision de retour à la littérature, de retour au sens, de retour à l'imaginaire. Voilà, donc il y a toujours quelque chose qui est finalement, même si c'est de manière modeste, fondateur dans une nouvelle revue. Et il ajoute ce retour-là, cette décision peut se faire dans la plus grande clarté ou la plus grande confusion aussi. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément vers où on va, vers quel objet on tend. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce cheminement, il me semble, qui est intéressant à explorer dans une revue. C'est le fait de partir d'une intention, d'une envie, d'un espace qu'on veut circonscrire, mais aussi de voir ce que ça va devenir. Peut-être qu'on ne sait pas, loin de là, tout de suite, ce que sera la revue qu'on veut faire.
Je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas tout à fait répondu à ma question, en fait. Parce que je te disais, qu'est-ce qui te manquait, ou qu'est-ce qui t'apparaissait manquer dans le paysage des revues ou de la littérature telle que tu le voyais vivre ? Tu es en plus un lecteur, je crois que je n'ai jamais connu un tel lecteur. Donc qu'est-ce qui te manquait qui faisait qu'à un moment donné, cette revue t'apparaissait avoir sa place et participer effectivement d'une sorte de mosaïque dont elle aurait été la pièce manquante ? À part la morgue.
ce que je viens de dire un peu, c'est-à-dire, alors je ne prétends pas avoir eu connaissance de absolument tout ce qui se fait en termes de revue pour être certain de l'originalité absolue de ce qu'on voulait faire. En tout cas, il me semblait que cet espace-là, qui pouvait, dans des textes de création, amener à prendre en charge des formes qui sont souvent un peu séparées, cloisonnées, et était intéressant. C'est un petit peu cet espace qui, en tout cas, nous semblait pouvoir exister encore. L'idée d'hybridation d'une écriture qui pourrait peut-être un petit peu bousculer les registres ou en tout cas pouvoir circuler plus librement entre, pour aller vite, des domaines qui relèvent un peu de l'analyse, de la critique littéraire, d'une création plus subjective, plus poétique, pour pouvoir essayer de travailler ça. Je répondrai comme ça.
D'accord. Alors, dans ton intervention, tu as utilisé souvent le pronom personnel « nous » ou le pronom impersonnel « on ». Et pourtant, j'ai eu le sentiment que la revue était, comme tu le dis, une décision d'un homme, toi. C'est comme si, en fait, dans la manière de faire revue, il y a toujours aussi une sorte de désir de communauté. Et je me retourne vers toi, Eric. Décidément, tu as bien fait de faire un entretien à diacritique parce que je n'aurais pas su quoi dire. Tu déclares ceci autour de laquelle j'aimerais bien que chacun se prononce sur cette idée de communauté. Les revues, hein. C'est l'utopie des revues et de la littérature en général que de faire l'hypothèse d'une communauté au bord invisible. Alors, de quoi une revue serait-elle la communauté et quels sont ses bords invisibles ?
Oui, ben, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Mon avis, tu as eu tort, parce que si, comme non, c'est invisible, tu vas être bien emmerdé pour expliquer.
Mais alors, la bordure invisible, déjà, bord invisible, ça me plaît dans la mesure où l'idée de communauté est liée à celle d'une sorte de fermeture. On pense toujours à une communauté secrète, ou je ne sais pas. Et là, il me semble que par un mode de diffusion qui est celui des revues, des lecteurs, tout d'un coup, peuvent, même, pourquoi pas, de deuxième main, et on m'a rapporté l'anecdote là récemment, qu'il y avait des numéros de Cochenon qui étaient chez un bouquiniste, et que quelqu'un a trouvé ces numéros, les a lus, en était enchanté. On ne sait pas comment exactement, comment quantifier, on ne le quantifie pas d'ailleurs, et ce n'est pas une préoccupation. Il y a évidemment un nombre d'abonnés, mais ce n'est pas la quantité.
Plaisantes.
Non, mais on ne sait pas qui finalement lit. Et donc ces bords invisibles me semblent bien dire que cette communauté est, même si discrète, elle n'est pas bordée, pas bornée. Elle peut partir en, comment dire, c'est une force centrifuge. Ou c'est comme ça? Ou centripète? Ou je ne sais plus. Celle qui va vers l'extérieur.
Centrifuge.
Voilà. Donc ça, c'est ce que je... Et puis, qu'est-ce que je devais dire d'autre?
Ben rien, tu as oui, dit...
Pour la, oui, pour la communauté, alors maintenant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur cette table de travail. Peut-être quatre auteurs ou un avec... Il y a un directeur de revue. Bon, il y a une... disons, quelques personnes qui travaillent de façon active à la revue, d'autres qui viennent de façon ponctuelle. Je pense qu'une revue, elle est faite... ça, c'était Robert Crillet qui disait ça quand il a fondé la Black Mountain Review. Il a dit, il faut... Ou ça vient d'Ezra Pound, je ne sais plus. Enfin, il faut des constantes et des variables. Les constantes, ce sont ceux qui sont au travail, autour de la table de travail, qui est une métaphore de la revue, on va dire. Et les variables, ce sont les auteurs qui se reconnaissent ponctuellement dans le travail de, disons, d'écriture, mais aussi de lecture, qui se fait dans la revue. Et cette géométrie est vraiment très variable. On pourrait parler peut-être de mathématiques non euclidiennes, ou je ne sais pas, c'est un truc qui est mal, qui n'est pas facile à tracer. Et je pense que cette forme géométrique est la communauté que forme une revue. Elle peut être très resserrée. Le grand jeu, ils se sont mis à 3 ou 4 pour quasi ils écrivaient tout. Il y a Karl Kraus qui avait sa revue Le Flambeau. Il était le seul rédacteur. Il n'empêche, une revue, elle peut être de multiples, avoir de multiples façons d'être, et il y a toujours l'idée d'une communauté. Voilà, communauté que j'espère sans bord. Voilà.
D'accord. André, sur cette notion de communauté.
Oui, tout à fait. Je pense que, d'une certaine façon, lorsque Sud a été créé, mais enfin, on peut le dire aussi de Phoenix, c'était aussi pour rencontrer nos semblables en poésie. Parce que les revues vont s'inscrire dans un certain climat affectif aussi. Et à partir de là, se crée une sorte d'esprit de groupe qui n'est pas le même dans la revue d'à côté. Donc, c'est la raison pour laquelle je parlais d'une sorte de sauvegarde des espèces de voix, parce que lorsque une revue existe, elle constitue, elle hameçonne, si je puis dire, d'autres poètes qui se reconnaissent plus ou moins et qui proposent leurs textes. Et si on les accepte, eh bien, cela donne une direction à leur... Alors, développement personnel et poétique, il me semble.
Oui, on reviendra sur cette idée. Sur cette idée de communauté, Daniel ?
Oui, je trouve que
surtout
c'est...
Surtout sur une revue aussi longue, bah c'est ouais. Des communautés successives, ouais. Est-ce que ça fait...
Et c'est des directions littéraires successives aussi, parce que bon, c'est sûr que les gens qui ont fondé la revue dans les années 40, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Mais j'aime beaucoup cette idée de la communauté, mais je rajouterais à cette idée-là que chaque numéro est une communauté. Il n'y a pas, malgré l'histoire, malgré les numéros qui sont publiés comme ça au fil des années, au fil des mois, etc., malgré la politique éditoriale de chacune des revues, bon, la revue Les Écrits n'est pas une revue spécialisée. C'est une revue de littérature générale. Phoenix, enfin, vos revues semblent plutôt spécialisées. La revue Les Écrits est une revue où on publie à la fois des récits, de la poésie, de l'essai, de la fiction,
du théâtre,
des textes hybrides, pour employer ce mot un peu galvaudé, mais quand même qui fait sens, là. Alors, il y a à la fois une reconnaissance de pair, c'est-à-dire qu'on est content de se retrouver dans ce numéro-là, mais il y a aussi, au-delà de la reconnaissance avec les pairs, il y a aussi une surprise d'être avec ces pairs-là. Donc, il y a comme une double notion de communauté, c'est-à-dire qu'il y a une communauté, on pourrait dire, endogamique et exogamique, si on veut, parce qu'il n'y a pas uniquement une seule reconnaissance.
Pas de mots savants, quand même, pas de mots savants.
Hein? Ben, c'est ça.
Pas trop de mots savants.
Ben, c'est québécois, hein? Excusez-moi, c'est des mots québécois.
D'accord. Et toi, Frédéric, alors là, ce qui est vraiment frappant pour être lecteur, je l'avoue, régulier depuis le premier numéro, génial premier numéro de La Moitié du Fourbi, je dois le dire, qui s'appelait Écrire Petit, qui était un numéro qui, pour moi, a été une apparition merveilleuse. J'ai le sentiment, là, d'une communauté d'auteurs. C'est-à-dire que, d'abord, ce qui me bluffe, c'est de mobiliser comme ça un certain nombre d'auteurs de manière régulière qui sont d'une plasticité. Alors là, c'était le mot qu'il fallait pas que je prononce. D'une plasticité extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils savent écrire de manière différente sur beaucoup de choses. Parle-nous, on ne va pas tous les nommer, mais je pense à Hugues Leroy, à Zoé Balthus, à Anthony Poirodeau, qui reviennent régulièrement, qui sont comme une sorte de ruban talentueux, perpétuel. J'allais dire d'amitié aussi autour de toi.
Oui, tout à fait. C'est aussi, bien sûr, une histoire de communauté, une histoire collective, une histoire humaine. Voilà, donc nous, dans La Moitié du Fourbi, on est depuis le début 6, on va dire 5 dans le comité de rédaction, plus aussi notre graphiste et directeur artistique qui fait un gros travail aussi sur l'identité visuelle de notre vue. Et donc, bien sûr, il y a ce fil rouge-là qui sont les membres de ce comité qui écrivent, qui s'essayent à différentes choses aussi, qui, je l'espère, ils le disent souvent, se surprennent eux-mêmes en s'essayant sur certains types de textes, certains registres qui ne sont pas forcément ceux qu'ils pratiquent habituellement quand ils publient dans leurs autres textes. Et puis, cette communauté aussi, j'ai envie de dire, des autres auteurs qui sont invités, qui viennent nourrir aussi chaque numéro. Et je rejoins un petit peu Daniel sur cette idée aussi de communauté par numéro, c'est-à-dire que effectivement il y a quelque chose qui se joue dans le temps, l'idée d'une communauté aussi de lecteurs bien sûr qui nous suivent, l'idée que chaque numéro finalement est une rencontre avec de nouveaux auteurs, nouvelles autrices, mais aussi il y a une espèce de partie imprévisible toujours dans un numéro, dans ce que ça va donner dans son ensemble. C'est aussi l'émotion de ce résultat, quelque chose qui relève d'une composition globale du numéro qui fait que chaque numéro est différent d'un autre et qui a aussi une part de risque et de surprise dans chaque numéro. Et que cette communauté s'invente aussi comme ça, au coup par coup, sur chaque numéro. Voilà ce que je pourrais dire.
Est-ce que je pourrais juste...
Vas-y.
Parce que tu me fais penser à ça, Frédéric. Dans la communauté, il y a aussi la rencontre avec le ou la plasticienne. Donc, tout le travail...
Non, mais vas-y, mais c'est... Non, on y reviendra.
Ouais, parce que bon, les revues ont aussi la présentation du travail graphique. Alors, je pense que tout dépendant peut-être des graphistes, mais je suis certaine que la majorité des graphistes lisent les textes. Donc, ne mettent pas les illustrations au petit bonheur, la chance, avec une ici, une là, puis bon, on verra ce que ça va donner. Quoi, j'ai dit quelque chose de drôle? Oui,
la robe. Parce que des fois, on se demande.
Des fois, on se demande. Bon, enfin, à la revue Les Écrits, en tout cas, notre graphiste a un travail particulièrement soigné. C'est elle qui est responsable, donc, de ce travail-là, et elle lit les textes. Donc, je m'arrête là.
D'accord. On y revient. Non, mais bien sûr, on y reviendra. Tu voulais ajouter.
Oui, alors moi, pour faire une métaphore, comme ça, la chose sera plus, comment dire, imagée, j'ai envie d'illustrer, enfin oui, de donner cette image d'un numéro de revue. Ce serait comme un rond-point avec...
Tu cites Jean-Michel Espitalier, au fond.
Ah oui, non, je pensais plutôt au mouvement qu'on a connu là récemment de Gilets jaunes. Un bras zéro, c'est un rond, il y a un rond-point, il y a un bras zéro, et on vient se réchauffer et discuter. Et il y a, qui est assez, de façon assez imprévue, finalement. Donc ça me paraît être une bonne métaphore d'un numéro de revue.
C'est justement, tu enchaînes sur ce que disait André, sur ce que disait Daniel. Et c'est quelque chose qui m'a frappé, un truc auquel jamais pensé, moi qui ne suis ni écrivain ni écrivant. C'est un texte d'Emmanuel Laugier qui disait qu'il avait eu un plaisir, qu'il a publié dans la Revue des Revues, au demeurant, qu'il avait un plaisir tout particulier à publier un texte dans une revue parce que, finalement, le fait qu'il soit à côté d'un autre texte dont il ne savait pas l'existence, ça transformait son texte. Et je trouve ça, au fond, parce qu'on sait que les auteurs peuvent être pleins d'eux-mêmes, de leur génie. Non, mais tout d'un coup, c'est aussi un exercice d'humilité, en fait, et de générosité, d'accepter de partager des pages avec quelqu'un dont on ne connaît rien. J'ajoute une autre anecdote. C'est un auteur aussi de la Revue des Revues, un jour qui me téléphone. À l'époque, on se téléphonait encore, on pouvait même s'écrire. Et il me dit, je voudrais te commander 7 ou 8 exemplaires du numéro auquel j'ai participé. Je lui dis, non, ça va me coûter cher en envoi, ça va te coûter cher parce que je ne vais pas te les donner vu ce qu'on vend. Je ne vais pas te les donner. Je lui dis, je vais te faire un tiret à part. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse d'un tiret à part? Je sais parfaitement ce que j'ai écrit. Ce qui m'intéresse, c'est à côté de qui je me retrouve dans ton sommaire. Et je trouve ça assez beau. C'est peut-être ça, en fait, cette communauté éphémère. Ça peut être une communauté parfois en tension aussi. Hein. C'est pas forcément simple. Mais je trouve ça... Voilà, c'est beau, cette sorte de marqueterie qu'on compose. Et vous savez, quand on fait, vous, ces différences, vos revues, mais même quand on fait une revue comme la Revue des Revues, Dieu sait que c'est compliqué d'avoir des gens qui travaillent sur les revues. Donc parfois, on maîtrise moyennement le sommaire, je dois dire. Et on est tout émerveillé de trouver des fils rouges d'article en article, comme ça, sur des accroches, sur des étincelles. Donc ça me paraît une notion extrêmement importante qui fait aussi que les revues sont quand même des objets extrêmement singuliers. Moi, je suis sûr que dans La Moitié du Fourbi, il y a des auteurs que j'aurais jamais lus s'ils ne se trouvaient pas à côté d'auteurs dont j'appréciais le travail. Donc je trouve c'est très beau.
Oui, moi, je dirais que la revue nous permet de découvrir des auteurs parce que on ne la lit pas toujours intégralement avant de la produire, n'est-ce pas? Et à un certain moment, on s'aperçoit qu'il y a en effet une sorte de cohérence qui s'impose. On ne sait pas pourquoi.
Si je peux, tu voulais ajouter quelque objectif. Chose vas-y.
Oui, non, dans ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les amis autour de cette table, enfin de ça. C'est quand ce que tu dis sur la manière dont les textes et les auteurs entrent en résonance dans la composition d'un numéro. Moi, je sais qu'en tant que directeur de publication, l'un, je le dis, des plus grands plaisirs que j'ai, c'est ce moment où il va falloir mettre ça en musique, c'est-à-dire les textes sont là et choisir aussi la place, par quoi on commence, par quoi on finit, quel texte on décide de faire se côtoyer ou pas, ou d'éloigner un peu, ou de... Et là, il y a voilà une espèce de sauce qui se fait, qui est qui va donner effectivement la résonance particulière du numéro, qui serait pas la même si on avait disposé les choses autrement, et qui en tout cas moi me semble importante, et en tout cas dans le travail que je fais, c'est l'une des choses qui m'apporte le plus de plaisir.
Vas-y, Daniel.
Je voudrais juste rajouter sur l'idée de la communauté, de la mise en forme du numéro, c'est qu'une revue, c'est pas un collectif. C'est pas un ouvrage collectif. Alors que l'on sait très bien, j'aime pas trop parler d'argent, mais on sait très bien que les ouvrages collectifs ne se vendent pas. On a tous publié...
Tu vas pas nous dire que les revues se vendent, quand même.
Non, mais il y a
c'est
des abonnements.
C'est une découverte.
Ouais, les revues font un tabac. Hein, les revues font un tabac. Et il y a des abonnements, alors qu'il n'y a pas d'abonnement pour les ouvrages collectifs. Et je trouve ça très juste, ce que vous avez dit, dans le sens que quand on publie en revue, alors que dans un collectif, on sait qui sont les autres auteurs. Dans une revue, on ne le sait pas. Et c'est le lieu de la découverte de gens qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, nous, on publie généralement à chaque numéro une suite étrangère pour permettre justement aux lecteurs québécois de rencontrer des auteurs qui sont ou bien pas traduits en français au Québec, qui ne sont pas publiés au Québec, et qui permet aussi à des auteurs québécois en région d'être connus un peu plus à l'intérieur, à l'extérieur du Québec. Et évidemment, on voudrait percer le marché français, le marché francophone plutôt. Mais bon, il y a tellement de problèmes avec les revues qu'on ne va pas se lancer dans ce débat-là. Mais je trouve ça important de noter qu'une revue, ce n'est pas un collectif. Ce n'est pas un ouvrage collectif.
Mais justement, on aborde là quelque chose qui nous est à la fois cher, qu'il est très difficile de faire partager, qu'on n'a pas forcément envie de faire partager. C'est la fabrique. Et nous allons publier dans le prochain numéro, par l'intermédiaire d'Éric, un texte de Jean Dève, je trouve absolument passionnant, parce que c'est un multi-récidiviste en matière de revue. Il en a fait trois fragments, figues, fins, maintenant Cochenong avec toi, et il a un autre projet de revue. Alors j'espère qu'il ne va pas te laisser tomber, ou peut-être que tu le souhaites au fond. Et dans son texte, ce qui est passionnant, c'est qu'il ne cesse de parler de la fabrique, on va dire de l'ajustement du texte et des arts plastiques, parce que c'est aussi un spécialiste de peinture. Et j'imagine que pour toi, qui es imprimeur, typographe, cette exigence, tu la partages, et même peut-être tu la précèdes, enfin, ou en tout cas, vous marchez l'amble, on dit, je crois. Hein.
Oui, il y a une rencontre qui se passe. Oui.
Non, c'est Jean Dève qui part. Ça marche plus ?
Non. Bon, mais ah oui, ça y est. Incontestablement, je crois, pour Cochenong, enfin pour les autres revues, c'était un autre mode de rencontre. Mais là, il s'est passé quelque chose entre Jean et moi qui est de l'ordre de la, d'une surprise aussi, et qui s'est produit autour de la typographie. Jean souhaitait faire une nouvelle revue. Et là, il faudra aussi parler peut-être du temps des revues. Est-ce que... Oui, voilà, qu'on verra ça plus tard. Mais en tout cas, à un moment donné, en 2012, Jean me propose de faire une revue. Et moi, je lui dis d'accord, mais je ne pourrais pas faire comme tes précédentes revues, qui étaient des revues de 96 pages et de 4 numéros par an. Donc moi, je ne pouvais pas matériellement le faire, même si ça avait été en offset. Et par contre, j'avais une idée que je lui ai proposée, c'était celle de faire une revue en typographie, donc de 20 pages et seulement 3 numéros par an. Donc ça changeait considérablement son rythme de travail, mais ma foi, il a accepté. Et en effet, il y a une conjonction qui s'est faite, qui nous surprend, je pense, tous les deux, qui est, si je peux la résumer, la préoccupation de Jean Dève, ce serait qu'est-ce qu'un texte donne à voir et qu'est-ce qu'une image donne à lire. Enfin, il y a comme ça quelque chose qui se... Il y a une réversion d'un un chiasme ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est le moment où le texte fait image sur la page, peut-être par sa forme, enfin, si c'est des vers, par la ligne sinueuse de son, de son bord droit. Et puis, qu'est-ce que une image donne à lire? Voilà, donc c'est sur ce double enjeu que ça se passe. Et moi, étant travaillant en typographie, étant limité dans mes casses, il me faut à chaque fois inventer le rapport entre, disons, le corps de caractère que je choisis et la nature du texte que je publie. Et du coup, il y a des choses qui sont d'ordre visuel, vraiment. Et tout ça se passe merveilleusement bien. C'est un champ d'interrogation qui est toujours ouvert devant nous et toujours passionnant à arpenter. Et je crois qu'on se régale avec Jean à travailler.
Donc on se régale avec un graphiste aussi pour revenir, pour rebondir sur ce que tu disais.
Oui, on se régale. Mais je pense que c'est important parce que si on plaque comme ça n'importe quoi sur n'importe quel texte, ben ça fait un peu ça fait rien, quoi. Mais je trouve que c'est très beau ce qu'il disait sur l'image et sur le texte, parce qu'il faut qu'il y ait une rencontre entre les deux. Je pense que la revue, c'est un lieu de toutes les rencontres, Et si on ne sait pas à quoi ça sert les revues, ben les écrivains qui y publient, eux le savent.
Est-ce qu'ils le savent encore, d'ailleurs,
les écrivains? Je pense non, que quand on publie dans une revue, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il était fâché. Jamais.
Ah oui?
J'ai jamais.
Alors là, c'est extraordinaire.
Non, on n'est jamais fâché de publier dans une revue. On peut être fâché contre le directeur, la directrice, le comité de rédaction, etc. On peut être fâché parce qu'on a oublié un S ou un W. Bon, on peut être fâché pour ça. Mais on ne peut pas être fâché d'être publié dans une revue. Voyons, c'est quand même une vitrine. C'est quand même un premier pas. Bon, tous ici, on publie des auteurs qui n'ont jamais publié. On a tous publié un premier texte, là, nous, dans les revues. On a tous publié. Il y a quelqu'un qui nous a tendu la main, ça, Perlipopette. On était contents que quelqu'un nous tende la main. On ne peut pas faire autrement.
Frédéric,
tu... Oui, non, je voulais rebondir là-dessus, dans le sens où... Même au-delà de ça, alors bien sûr, on entend et c'est aussi son rôle, sa place et son. Une revue peut être un levier pour des personnes qui n'ont encore pas ou peu publié, un banc d'essai, je dirais, il y a ça. Ça peut être même pour des personnes qui ont publié un banc d'essai pour s'essayer à d'autres formes. Et voilà. Mais on voit qu'effectivement, il peut y avoir une envie de passer par la revue pour peut-être se trouver, aller plus loin en termes de publication. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit aussi des auteurs et autrices reconnus, publiés, parfois connus, enfin plébiscités, qui n'en auraient plus besoin de ce point de vue-là, mais qui trouvent encore un plaisir... à publier en revue. Donc ça, c'est réel. Justement,
André, là, je fais appel à ton travail de traducteur de l'italien en particulier. Je crois que tu traduis autre chose, non ?
Un peu de l'anglais, mais avec une native.
Est-ce que tu as pu constater précisément que tes efforts de traduction, j'imagine, de poètes italiens méconnus, avaient attiré l'attention sur eux, peut-être avaient été publiés par des maisons d'édition et que tu avais été finalement leur passeur.
Certains Italiens ont été promus aussi par le Festival de Sète après l'avoir été dans Phoenix. Voilà, il y a ça. Pour ce qui est des éditeurs italiens, je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est vrai que... je prévois très prochainement de faire un volume, ou plutôt de traduction, d'une poète italienne, oui. Bientôt, voilà.
Mais c'est ça qui est étonnant, je veux dire, on découvre des auteurs italiens, je la cite tout le temps, ils doivent en avoir marre, mais c'est vrai qu'un jour, dans la revue de Belles Lettres, qui offre quand même un nombre de traductions absolument considérable et admirable, j'ai découvert une des plus grandes poète qu'il m'a été donné de lire, qui s'appelle Hilde Domine, qui est une poète allemande exactement contemporaine à Paul Celan, qui partage d'ailleurs avec Paul Celan beaucoup de souffrances de l'époque. Et là, c'est vrai qu'il a fallu que j'ouvre, comme ça m'arrive souvent dans cette revue, j'ouvre cette revue pour être tout d'un coup, je ne dirais pas ébloui, puisque le soleil était plutôt noir, mais en tout cas terrassé
par autant de beauté. Donc c'est vrai, je crois qu'elle avait été traduite, mais c'est souvent dans une revue, je crois dans votre revue, dans Phoenix, je ne sais pas qui en était responsable, c'est Kiki Dimoula, par exemple, qui était très peu publié en France. Je ne sais pas si ça a changé. Voilà.
Nous l'avons publié avant que ne paraisse son volume chez Gallimard, oui, par exemple. Oui.
Eh bien, c'est juste, peut-être pas conclure tout de suite, mais j'espère que la salle voudra bien être en dialogue avec nous, puisqu'on a dit qu'on faisait communauté, donc on est obligé. Non, mais on parlait du rapport au temps. Il me semble que vraiment, il y a bien quelque chose qui caractérise les revues, c'est leur usage du temps, parce qu'elles sont à la fois en avant dans les découvertes, elles sont en retard, parce qu'elles ont quelque chose de tout à fait inactuel. Dans leur production, elles demandent du temps pour être produites. Dans leur lecture, d'ailleurs, peut-être on ne les lit jamais. On les achète sans les lire.
Oui, on les met
sur
le rayon de la bibliothèque.
On les garde. Donc ce rapport au temps, j'aimerais bien que vous le dépliez.
Oui. Est-ce que ça marche ? Oui. Moi, j'entends la question du temps un peu différemment de ce que tu la présentes. Il me semble qu'on a passé par un creux dans les années 2000. Pour moi, enfin, parce que j'avais eu l'occasion de faire une revue à ce moment-là, et il me semblait que ce n'était pas le temps des revues. Je ne sais pas c'est un sentiment que j'ai eu dans les années 2000, vraiment d'un creux. Et là, il me semble, et je le dis depuis un an ou deux, là, il me semble que le temps des revues est revenu. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai ce sentiment-là.
Mais je te disais hier, elles étaient peut-être revenues, mais elles étaient molles. Et toi, tu me disais qu'elles étaient dures. Alors, on ne va pas faire de métaphores abusives. Explique-nous en quoi elles sont dures.
Non, là, je pense que le ton s'affermit des revues. Parce que je crois avoir compris qu'il y avait beaucoup de nouvelles revues cette année au Salon de la Revue. Je pense qu'il y a un besoin, une nécessité de cette communauté, tout simplement, parce qu'on est le monde tel qu'il est nous stupéfie quand même dans son avancée là. Et je pense qu'il y a un besoin de se retrouver, comme un besoin de collectif, de se réchauffer un peu entre gens humains après tous ces confinements, après tout ça. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même... Donc, il y a une inactualité de la revue. Ça, je suis tout à fait persuadé. Et là, il y a quelque chose d'une actualité qui ressurgit du mode revuistique. Je ne sais pas comment le dire, mais...
Ça nous frappe énormément. Enfin, je ne suis plus tout à fait à la manœuvre, mais Hugo, qui est là, Yannick, qui est là-bas, sont aussi surpris du mouvement perpétuel. C'est pas nouveau. Mais à quel point des jeunes gens... qui sont de l'âge des écrans, n'ont de cesse de faire des revues. Et puis justement des revues, alors je ne sais pas si elles sont dures ou molles, je plaisantais, mais extrêmement chiadées, extrêmement pensées. C'est-à-dire ce n'est pas un geste, on ne se met pas dans un café en disant tiens, on va faire une revue, on va publier nos poèmes, mais vraiment, on va dire des petites grenades. Alors une grenade, ça peut être un fruit ou ça peut être quelque chose qui se dégoupille. C'est-à-dire ça peut être un délice ou une déflagration. Et donc, je crois qu'il y a un vrai plaisir de voir des jeunes gens, surtout que là, vous voyez, on vient de finir le Salon de la Revue. Il y avait des jeunes équipes qui ne savaient pas, au contraire, ils avaient 19 ans. Ils disaient, c'est la première fois qu'on voit des revues, parce qu'elles ont aussi, en partie, disparu du paysage médiatique, n'en parlons même pas, mais même du paysage éditorial. Aller dans une des meilleures librairies de Paris, parfois pour trouver quand même une revue, vous peinerez, puisque désormais les MOOC ont recouvert la forme artisanale, je dirais, cet objet. C'est un multiple, si je puis dire, une revue. C'est comme les livres d'artistes, d'une certaine manière, c'est un multiple. Elles ont pratiquement disparu des étagères. Donc ben voilà, sur cette idée du temps des revues, quel est leur temps, le fait qu'elles soient inactuelles, est-ce que ça vous inspire des réflexions? Est-ce que ça vous paraît être une des choses qui les caractérise, qui les rend précieuses et en même temps fragiles? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas peur du temps.
La revue Les Écrits, en tout cas, elle n'a pas eu vraiment peur du temps, étant donné qu'elle existe depuis si longtemps. Et qu'elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a, au fil des années, elle s'est carrément transformée, elle s'est changée, elle s'est adaptée, elle s'est désadaptée, elle s'est réadaptée. Et je reviens encore avec l'idée du temps par rapport à la revue. Ce qui est bien avec une revue, c'est qu'on peut la lire à l'envers. Il n'y a pas de sens dans la lecture. Donc, le temps, à ce moment-là, on peut le prendre aussi à l'envers. Hein, on peut lire un numéro. Bon, si le numéro nous plaît plus ou moins, on peut le refiler à quelqu'un. Cette personne-là, elle, au contraire, va y trouver quelque chose que nous, on n'avait pas vu et qui, là, va nous en parler. Mais c'est sur un texte. Et je trouve très beau cette idée que les auteurs... C'est pour ça que je reviens avec cette idée que les auteurs, les autrices, sont fiers de publier en revue parce qu'ils se retrouvent avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et qui les relancent. Et ça, c'est important dans le temps parce qu'actuellement, on a besoin d'être relancé par les autres. Après ce qu'on a vécu ces derniers 18 mois, je pense qu'on a besoin d'être en communauté, mais on a besoin d'être dans une communauté aimante, une communauté liante, où on se répond, où on s'appelle. Et la revue, c'est ce que ça fait, c'est que ça appelle l'autre.
Oui, par rapport à ça, je rebondis là-dessus, dans le sens et dans ce qu'a dit Eric aussi. Sur peut-être qu'effectivement, il y a de la fragilité, de l'inactualité dans la revue, mais on voit que c'est encore un lieu de désir incroyable quoi, quand on voit ces nouvelles revues. Et je pense que cette question d'aventure humaine et collective, dans un temps où, bien sûr, on a vécu un peu le contraire, est très importante. Et aussi, disons-le clairement, dans une société où beaucoup plus de choses nous divisent que ce qu'elles nous rassemblent, voilà, c'est quand même un espace à partager qui relève d'une aventure qui fait désir quoi aujourd'hui, c'est clair.
Ça relèverait de l'utopie, je dirais.
Oui, moi je dirais aussi que la revue permet l'exercice de la tolérance. Je veux parler, Karim. Oui. Bon, ben, Karim est le rédacteur en chef actuel. Moi, je ne suis plus que le directeur littéraire de Phoenix.
Qu'est-ce que ça veut dire, oui, directeur littéraire ?
Oui. Je règne, mais je ne dirige plus.
Mais par exemple, qui a choisi, là on fait avant que Karim ne prenne la parole, qui a choisi de faire un dossier Lucie Taïeb ? Non, je te pose la question sans malice. Hein.
Lucie Taïeb est venue vers nous à travers François Borde.
Et Laure Gauthier.
Voilà.
Et Laure Gauthier, par le conseil de rédaction, voilà. De manière très classique. Voilà. Oui, à tout ce qui a été dit, je suis d'accord. Un banc d'essai, plateforme, lieu de rencontre, de ce point de vue-là. J'aime bien notre Méditerranée de Phoenix parce que la Méditerranée, c'est une plateforme et c'est un carrefour en même temps. Donc Marseille, c'est pas mal. Et j'ajoute simplement un autre mot qui est le mot de veille. Je crois que l'activité d'une revue, actuelle ou inactuelle, peu importe, a un rôle de tour de contrôle, de tour de guet, de veille et d'attention à ce qui se passe. Et donc de ce point de vue-là, elle est très vivante. Et enfin, sur le besoin de se relier, j'aimais bien ce que tu disais. Je note aussi qu'une revue, c'est de la fabrication, de la fabrique, de la manufacture. La caractéristique d'une revue, c'est qu'elle porte elle est dans une enveloppe et sur cette enveloppe, sur la revue, il y a une étiquette. Et sur cette étiquette, il y a le nom de quelqu'un à qui cette revue est adressée. On reçoit une revue dans sa boîte aux lettres. Donc ça, c'est très spécifique. C'est pas de comptoir au détail à personne, mais c'est de la main à la main, de ce point de vue-là, c'est particulièrement vif, je trouve, aussi. Voilà.
D'autres questions allez-y, n'hésitez pas.
Oui. Moi, je n'ai pas une question, mais je profite du temps. Nous sommes en octobre. Et donc la mémoire est toujours là. Et j'ai le plaisir, puisque c'est la poésie, c'est le marché de la poésie, de vous citer un texte de Kateb Yassin, à l'époque, qui envoie un appel au peuple français pour justement se mémorer la tragédie d'octobre 61. Je vous lis ce texte de Kateb Yassin. La gueule du loup, 17 octobre 1961, par Kateb Yassin. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu, de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine, rougissante, n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? Voilà, c'était à faire signer à l'époque pour ne jamais oublier la tragédie. Merci.
Merci.
D'autres questions? Allez-y. Des questions?
Ben oui. Peut-être que chacun pourrait nous parler déjà peut-être de son dernier numéro, de son actualité, de quoi est fait vos derniers numéros. Je demanderai à Frédéric de lire si vous voulez lire aussi un tout petit texte que chacun y prend, et puis nous conclurons. Donc. L'actualité, je ne sais pas par qui je commence. Daniel, de quoi est fait ces derniers numéros de...
Les derniers numéros, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des numéros non pas thématiques, à la différence de plusieurs revues, peut-être en France, les thématiques, même au Québec, il y a plusieurs revues qui sont des numéros thématiques. Alors, nous, on table plutôt sur la littérature générale et les suites. Donc, dans ces derniers numéros, il y a deux suites, une suite flamande et une suite de La Réunion. La Réunion qui a pu être coordonnée grâce à Patrick Quillet, que vous connaissez très certainement, et le dernier numéro flamande avec Yann Mishkin qui a effectué la traduction. D'ailleurs, je vais plutôt laisser la parole aux autres. Patrick Quillet.
Saluons Patrick Quillet.
Ouais, saluons Patrick Quillet qui m'a aidé à faire cette suite réunionnaise. Mais je vais plutôt vous inviter, puisque c'est la page publicitaire de la revue, on va faire chacune notre publicité. Alors, mercredi de cette semaine, à la librairie du Québec, c'est pas compliqué, c'est la seule librairie du Québec qu'il y a à Paris, sur la rue Gay-Lussac. Nous faisons une rencontre-événement, lors de laquelle rencontre-événement, il y aura effectivement des lectures des différents numéros. Alors, plutôt que de vous lire des textes aujourd'hui, à moins que Patrick ait envie de lire un petit bout du texte de Gamaleya. Est-ce que tu aurais envie de lire un petit texte, un petit bout? Alors, je vais laisser la parole à Patrick, parce que la revue, c'est aussi ça. C'est une très court, 2 minutes. Deux minutes. C'est aussi ça, la revue. C'est aussi ça, une revue, c'est la rencontre des genres et des peuples.
Il est bon? Oui, vous m'entendez? Merci, Daniel. Donc, Boris Gamaleya, le grand poète réunionnais, une allée du marché porte son nom, est donc représenté dans ce numéro, et je vais lire quelques vers. Hein. Dépouillé des futiles prétextes, mon âme psalmodie les formules de la métamorphose. Ô chant de mer, ô loi des îles, l'or, le songe de mer qui renaît sur mes lèvres, pour tout recommencer, le songe, est-ce le sable ou la mer me ressasse ? Le sable, est-ce la mer ou le songe m'efface ? La mer, sans cesse, comme un homme à lui-même rendu, qui se souvient de son possible dévasté.
Merci, Patrick.
À toi, peut-être choisi parmi ce que tu souhaites. D'abord, présente-nous le numéro, de quoi il est fait, toujours riche en traductions, en nouvelles voix, en partage des voix.
Oui, d'accord. Chaque numéro de la revue est structuré de la même façon, mais tous les auteurs changent, bien sûr. Celui-ci a pour tête d'affiche Lucie Taïeb, qui est prosatrice et poète, et traductrice aussi de l'allemand, etc. Bon, elle est accompagnée. Alors, il y a toujours dans la revue un accompagnement critique pour le dossier qui est préparé, n'est-ce pas ? Ici, Laure Gauthier, Benoît Vincent... pardon, il faudrait que je mette les lunettes. Voilà. Tout cela a été coordonné par François, qui est là, et qui pourrait mieux parler du numéro que moi. Mais il y a aussi un partage des voix. Alors, il faut dire aussi que les numéros de Phénix ne sont pas thématiques non plus, hein, comme pour toi, comme pour les écrits. Il y a d'abord un dossier avec un accompagnement critique d'un auteur, et puis il y a aussi un éclairage second, dirais-je. Celui-ci porte sur Jean-Pierre Vidal, avec un texte de moi et un texte de Marc Wetzel. Et puis, il y a une voix d'ailleurs, et parfois deux voix d'ailleurs. Ici, c'est la voix de Mariano Rolando Andrade. Et donc, chaque fois, nous avons la VO et la traduction, bien sûr. Une mémoire, celle de Bernard Noël et celle de Philippe Jacoté. Des sporades aussi. Ça, c'est une rubrique qui a été inventée par François Borde. Je pense que la découpure des sporades est tellement variée en Grèce, n'est-ce pas, que au fond, cela s'applique parfaitement à des textes fort divers et qui parfois sont des proses, en effet. Tout à l'heure, tu disais que notre revue accueille surtout de la poésie. C'est vrai, mais parfois, nous avons des proses. Puis nous avons les proses critiques qui sont abondantes dans la fin du numéro, puisque nous accueillons quand même beaucoup de notes de lecture. Voilà.
D'accord.
Et alors, il faut... Alors, faut-il lire ? Non.
On va voir.
Oui, d'accord.
Pour que je connombe, la particularité, c'est peut-être...
On t'entend. Oui, c'est...
La particularité, c'est peut-être que Jean Dev construit les numéros par petites touches et on retrouve, il y a certaines questions posées qui trouvent leurs réponses quatre numéros plus tard. Donc on est toujours dans une attente active. C'est-à-dire, on a publié dans le numéro 16 de Cauchemar-Conongue une lettre de Jean Paulhan à Georges Braque. Jean Paulhan qui devait être en train de travailler sur son livre sur le cubisme. Il lui pose une question très précise sur la technique cubiste. Et nous avons eu la réponse dans le numéro 20, donc quatre numéros plus tard. Et donc il y a un jeu de tension comme ça et de détente qui se produit entre les numéros. Là, on a publié une première lettre de Cathy Acker à Paul Buck. D'autres vont arriver. Il y en a trois en tout. Et donc, il y en aura une deuxième dans le prochain numéro. Donc, c'est ce jeu-là d'écho, de questions, de réponses et de construction autour, comme toujours, des constantes des auteurs publiés. Et les variables, c'est ceux qui viennent s'agréger pour un numéro. Donc, ça sert à rien de donner le sommaire. Voilà. Par contre, ce que je peux parler, c'est, puisque je l'ai amené, c'est une feuille, une revue. Alors, ça, c'est le minimum, enfin, une des possibilités minimum de revue, c'est-à-dire une feuille recto-verso. Il n'y a même pas de nom d'auteur, puisque c'est anonyme. Et voilà, ça se trouve, on peut s'abonner, mais là, c'est terminé, là, c'est avec le numéro 4, c'est fini.
Ah, c'est déjà fini.
Oui, voilà. Et ça, c'est une revue de poésie dure.
Dur, ah, dur, dur. Décidément, tu y tiens, tu as un problème avec quelque chose ou pas?
Voilà.
Bon, c'est bon. Frédéric, à toi, tu nous présentes un peu ce dernier numéro qui est le numéro 13. J'espère qu'il va vous porter bonheur.
Espérons aussi, oui. Donc, numéro 13 autour d'un mot qui est miroir. Donc, où on accueille 18 contributions. On retrouve différentes choses avec aussi bien des choses qui vont du côté de la philo avec Jean-Clé Martin, mais des textes de Lou Darsan, jeune autrice publiée aussi, d'Anthony Poirodeau, de Sarah Chiche. Comme à notre habitude, une présentation d'un travail photographique aussi, d'extrait d'un magnifique travail photographique d'un photographe japonais, Seishi Furuya, qui a fait tout un travail de mémoire sur sa femme décédée, Christine Gössler, avec un travail de photo en vis-à-vis qui est un très beau travail. Et différentes choses à découvrir, une autrice de romans graphiques aussi, Juliette Mancini, tout ça en lien avec ce thème, et un entretien qu'on a conduit avec Anthony Parodo, avec Sokopai, qui est une universitaire et qui, elle, a fait un travail assez remarquable sur la question du miroir dans l'art contemporain. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, en termes d'actualité, nous sommes jusqu'à ce soir 19h sur le marché de la poésie, au stand 700, et on doit aussi participer sur invitation d'Anthony Poirodo à Nantes fin novembre au festival Bifurcation, où on va faire un petit show à quatre du fourbi autour d'une création fourbiesque, on va dire. Voilà ce que je peux dire.
Donc si vous avez envie de dire quelque chose depuis la salle, il est encore temps. Nous disposons d'une dizaine de minutes, si vous le souhaitez. Sinon, moi je propose, puisque je vois que tu as choisi un texte... Ça me laisse sans voix, tant mieux, parce que je suis sûr de plus en plus. Comment peut être poète par les temps qui courent? C'est une vieille question. Comment écrire de la poésie après? Peut-être en n'écrivant pas. Ouais. Peut-être. Vous savez, il y a un des plus grands poètes qui est un revuiste émérite, enfin un poète actuel, qui est Jean-Marie Glaise, qui s'obstine à faire une revue qui s'appelle Nioc depuis plus de 20 ans, en changeant d'éditeur tout comme de chemise, et qui dit que la poésie n'existe pas. Et pourtant, quelle voix magnifique. André, une minute, on a 5 minutes. Oui, c'est bon, vas-y.
Dans le partage, alors je ne peux pas prendre un texte de Lucie Taïeb parce qu'il y a beaucoup de prose et je ne veux pas durer trop longtemps. Je prends un texte de Marc Deleuze. Qui a pour épigraphe une phrase d'Henri Michaud. Pourquoi, pour des mots, perdre inconsidérément l'étendue? Et le texte s'appelle « Les confins circulaires », une page. Seul est libre de les franchir celui qui admet les confins du temps, du monde et de lui-même. Confins des figures, ce qui apparaît, disparaît, réapparaît dans ce poème. Confins des contours, ce que tu construis, se détruit, se reconstruit dans ce poème. Confins des normes, ce qui te contraint, te libère, ainsi l'amble dans ce poème. Confins des souvenirs, ce que tu ignores t'oblige à le dire dans ce poème. Confins des apparences, ce qui change et ne change pas se transforme dans ce poème. Confins des renaissances, voilà qui convient à Phénix, confins des renaissances, toute naissance dégénère, régénère dans ce poème. D'au-delà des confins, seul qui ose le voyage trouve le chemin du retour. Est-ce une réponse à la question qui a été posée?
Dernière petite lecture avant que je
que je conclue, et on aura une ultime lecture à laquelle c'est une voix que je tiens à faire entendre pour finir. Vas-y, Eric. Donc, en plus, la générosité, la modestie des revues est formidable parce que Eric va lire un texte dont il ne sait rien et qui n'est pas de sa revue. Vas-y.
Voilà, ni l'auteur, ni l'autrice, ni rien. Je ne sais pas. Nous avons créé une fête pour l'oubli du temps. Je n'ai pas hésité à en envier les choses transparentes. Combien de sang faut-il ? Il n'est pas possible d'apprendre le courage. Les mondes apparaissent à travers les processus réversibles. L'écoute se produit à partir des organes atteints. Nous répondons par asymétrie. Dans quoi les facultés se trouvent sans loi.
On comprend qu'ils ont arrêté de faire leur revue. Merci. Donc, un ou deux mots pour conclure. S'il fallait d'ailleurs qu'une justification à faire des revues, on en aurait la preuve dans l'actualité récente, parce que, au fond, l'avant-dernière prix Nobel, Louise Gluck, a été publié sans que personne s'en rende compte dans la revue Poésie, voilà 15 ou 20 ans. Donc, comme le dit Michel Deguy dans un ouvrage que nous avons publié et oublié heureusement en Iran, s'il ne restait qu'une raison de faire des revues, c'est de traduire. Et vous vous y employez au moins pour trois d'entre vous. Et ce que j'ai écouté à travers tout ce qu'on a essayé de dire, c'est à la fois la générosité du geste d'une revue. Et je dirais presque son goût de la dépense. Une revue, ça dépense sans compter. Il y a une gratuité du geste que je trouve admirable dans une époque comptable, dans une époque de l'économie joyeuse. La revue, elle, est un objet économiquement débile. On l'aime aussi pour ça. On l'aime pour sa faiblesse, pour sa lenteur, pour sa marche contraire. C'est parce qu'elle est contraire qu'elle vaut la peine qu'on remonte le chemin avec elle. Et je finis par une citation approximative de Valérie Larbaud. Il rêvait qu'un jour, on écrive une histoire de la littérature qui ne serait faite que de titres de revue. Eh bien, en tout cas, vous avez déjà épluché 4 lettres. P, K, M, E. Je vous en remercie. Et on va écouter pour finir l'ami Frédéric Piolov, qui a eu la chance de publier un poème d'un écrivain qui s'appelle Océan Wang, qui est poète, mais qu'on a pu découvrir chez Gallimard pour son magnifique, le terme est faible, roman, qui s'appelait Un bref moment de splendeur, et dont La moitié du fourbi publie un poème. Comment vous avez eu ça ?
Alors, très clairement, c'est un poème extrait d'un recueil publié, hein, je le précise, par Mémoire d'Encrier, donc un éditeur québécois. Et voilà, de temps à autre, on aime bien pouvoir aussi prendre donc, quelque chose qui est publié et qui va rentrer en écho avec ce qu'on fait. Et Océane Wang était, je l'ai découvert à cette occasion, était un poète avant d'être, bien sûr, avant d'être romancier. Et voilà. Et donc on a pu, par son éditeur, lui demander la possibilité de publier ce poème. L'éditeur a accepté aussi. Et donc voilà, c'est ce poème que je voudrais lire. Donc il s'appelle Torse d'air. Donc je précise que c'est extrait d'un recueil qui s'appelle Ciel de nuit blessé par balle, publié chez Mémoire d'Encrier en 2017, et traduit, parce qu'il faut bien saluer les traducteurs, par Marc Charon. Supposons que tu parviennes à changer ta vie et que le corps soit plus qu'une partie de la nuit scellée d'échymose. Supposons que tu te réveilles et découvres que ton ombre a été remplacée par un loup noir. Le garçon, beau, est disparu. Tu te tournes vers le mur, couteau en main. Tu tailles et tu tailles jusqu'à ce qu'un ray de lumière apparaisse et que tu parviennes à voir de l'autre côté où enfin c'est le bonheur, L'œil qui regarde à son tour de l'autre côté attend.
Assez utilisé le mot plaisir, mais je crois que vous avez senti à quel point nos amis, qu'ils soient longuement rodés à l'exercice de la revue ou un peu moins, ont du plaisir et que ce plaisir, ils veulent absolument vous le faire partager. Donc vous pouvez les retrouver sur le marché, comme l'a dit Frédéric, pas toi. Toi, on peut te retrouver mercredi. Donc toi, sur ton stand qui est...
523.
523.
Le CIPM, quel voilà. Numéro d'ailleurs.
Toi, tu sais pas, c'est pas moi qui vais te le dire.
Hein.
Enfin bref, le CIPM qui a un immense stand à la hauteur de l'ambition de l'institution. Voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé, que vous aurez plaisir à découvrir les revues si vous ne les connaissez pas.
Merci André. Dans quelques minutes.